Bonjour à chacun. Je ne sais pas si vous connaissez une bande dessinée qui s'appelle Calvin et Hobbes. Certains oui, certains non. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il est chrétien, mais un certain nombre d'éléments me laissent le penser. Et j'aime beaucoup parce qu'au travers d'un certain nombre de ses dessins, il pose des réflexions que je trouve très pertinentes. Et ce matin, je vous invite à commencer par une petite bande dessinée. Je vais décrire pour les personnes qui ne voient pas bien. C'est un père qui est en train de faire la vaisselle, et son fils s'approche de lui et lui demande « Papa, comment on fait les bébés ?» Alors, derrière cette question, parfois embarrassante, la question de ce fils à son père se cache en réalité probablement une question existentielle. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis vivant? Suis-je là par hasard? Suis-je un enfant désiré, un enfant aimé? Ai-je de l'importance aux yeux de mon père? Alors, de nombreuses réponses farfelues ont parfois été apportées pour répondre à ces questions. Et là, le père raconte à son fils, probablement embarrassé, il dit « La plupart des gens vont au supermarché, achètent un kit et suivent les instructions de montage. Voilà d'où tu viens. » Mais ces fausses réponses peuvent parfois nous déstabiliser. Donc l'enfant, là, comme « Hein, quoi? Je viens d'un magasin ?»« Mais non !» lui rassure le père, « si on veut. Tu étais en promotion dans une solderie. » Presque aussi bon, et bien moins cher. Et si jamais nous croyons ne pas être aimés de notre Père, cela nous affecte profondément. Il n'y a pas toujours la mère qui est derrière pour dire « Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Si cet enfant croit cela, cela va influencer le regard qu'il porte sur lui-même, et cela va également avoir des répercussions sur sa relation avec son Père. Malheureusement, le péché qui règne dans le monde fait que de nombreux enfants ne se sentent pas aimés ou bien doutent de l'amour de leur père. Et alors, ils ont l'impression d'être seuls au monde, d'être abandonnés. Ces enfants ne croient pas que leur père les aime et ils ne peuvent donc pas lui faire confiance. Si nous avons tous un père terrestre, les enfants de Dieu, eux, ont en plus un Père céleste. Et ce que la Bible met en lumière, c'est que le péché survient toujours lorsque les hommes ou les femmes ne croient plus en la bonté de leur Père céleste. Ce matin, l'objet de notre méditation sera « Lorsque je doute de l'amour de mon Père céleste, à quoi puis-je me raccrocher pour ne pas tomber ?» dans le péché. Je vous invite à ouvrir vos Bibles presque à la fin, à la première lettre de Jean au chapitre 3. Et notre méditation portera sur les trois premiers versets de 1 Jean 3. Avant de lire ce passage, il nous faut déjà le remettre dans son contexte. Parce que c'est toujours dangereux d'aborder un texte biblique sans le placer dans son contexte, sans tenir compte de ce qui précède et ce qui suit. Alors, cette lettre a probablement été écrite par l'apôtre Jean à la fin de sa vie, vers les années 90. Voilà donc près de 60 ans que Jésus est mort et ressuscité. L'Église a grandi, l'Église s'est fortifiée, mais parallèlement à cela, les chrétiens sont confrontés à de faux enseignements. Des enseignements qui disent l'inverse de ce que Jésus a enseigné. Au chapitre 2, au verset 18 et 19, on voit que ceux qui colportent ces faux enseignements sont appelés des antichrists, des anti-Jésus. Ils apportent un enseignement opposé à celui de Jésus. Et même si ces enseignements semblent avoir une origine spirituelle, en réalité, il n'en est rien. Et ceux qui dispensent ces enseignements ne sont même pas chrétiens. Verset 19, ils sont présentés comme des adversaires de Christ, qui n'étaient même pas de véritables disciples. Ces enseignements ne sont que des mensonges. Et verset 26, malheureusement, ces mensonges séduisent et égarent plusieurs enfants de Dieu. Voilà ce qui précède notre passage. Et ce qui va suivre notre passage, ce qui le suit juste après, c'est un exposé sur le fait qu'un chrétien ne peut pas pécher. C'est incompatible avec sa nouvelle nature. 1 Jean 3, les versets 9 et 10. Excusez-moi, l'ordinateur me dit qu'il doit faire une mise à jour. Ça, c'est l'avantage sur la technique, quand ça marche, ça nous donne un grand sentiment de puissance. Versets 9 et 10, voilà ce que dit Jean, donc juste après le passage que nous allons voir tout à l'heure. « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Le but que poursuit Jean, c'est de venir en aide à des chrétiens qui entendent toutes sortes de mensonges et qui risquent de tomber dans le péché. Et comment Jean va leur venir en aide ? Jean ne leur a pas dit « Voici ce que vous devez faire pour être victorieux sur le péché. » Mais Jean leur a dit, et ce sera l'objet de notre méditation, Jean leur dit plutôt « Soyez assurés que votre Père céleste vous aime, si vous croyez cela, vous serez victorieux sur le péché et vous pourrez vivre pleinement comme un enfant de Dieu. » Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, illustre par de nombreux exemples cela. Lorsque les hommes ne croient pas en la bonté de Dieu, alors ils se détournent de lui et tombent dans le péché. Mais lorsque les hommes croient en la bonté de Dieu, ils sont libérés de la tentation, du péché. D'où notre sujet, lorsque je doute de l'amour de mon Père céleste, à quoi puis-je me raccrocher pour ne pas tomber dans le péché ? Et nous, est-ce que parfois, il ne nous arrive pas de douter que Dieu nous aime ? Je veux dire que Dieu nous aime vraiment. Nous savons qu'il nous aime, mais sommes-nous convaincus qu'il nous aime véritablement ? Est-ce que Dieu m'aime encore lorsque je ne suis pas à la hauteur ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de douter que Dieu nous aime toujours ? Nous savons que Dieu nous a aimés autrefois, mais sommes-nous convaincus qu'il nous aime aujourd'hui, maintenant ? Ai-je toujours de la valeur aux yeux de Dieu ? Est-ce que parfois nous pensons que Dieu a honte de nous, que nous l'avons déçu, que nous n'avons pas été à la hauteur de ses exigences ? Dieu m'aime-t-il encore, ou bien Dieu me regarde-t-il avec un certain mépris ? Est-ce que parfois nous n'avons pas l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'il ne s'intéresse plus à nous. Douter de l'amour de notre Père céleste nous empêche d'avancer dans sa direction. Mais ne pas croire en l'amour de notre Père céleste nous fait prendre la direction opposée, la direction du péché. Lorsque je doute de l'amour de mon Père céleste, à quoi puis-je me raccrocher pour ne pas tomber dans le péché ? Maintenant, je vous invite à lire les trois premiers versets de 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si nous doutons de l'amour de notre Père céleste, La première chose à laquelle nous pouvons raccrocher, c'est « Je peux faire confiance à Dieu pour veiller sur moi, car il m'a donné une preuve de son amour. » Alors, quel péché nous guette si jamais nous doutons qu'il nous aime? Si je n'ai pas confiance que Dieu m'aime, je n'ai pas non plus confiance que Dieu veille à mon intérêt personnel, qu'il m'accorde l'importance. Si Dieu ne m'aime pas, je ne peux pas croire qu'il va prendre soin de moi. Comment quelqu'un qui ne m'aime pas pourra-t-il prendre soin de moi? Il vaut donc mieux alors que je fasse les choses à ma manière, que je fasse seulement ce qui me semble bon pour moi. Et je ne dois jamais dépendre de ce Dieu dont je n'ai pas confiance. Je dois même me méfier de lui. Et toutes sortes de raisons peuvent nous amener à douter ainsi de l'amour de notre Père céleste. Nous avons peut-être l'impression que Dieu n'intervient plus assez ou pas assez en notre faveur. Les choses n'évoluent pas comme nous l'espérions. Ce n'est pas ça qu'on espérait de Dieu. Dieu n'agit pas envers nous comme nous l'aurions aimé. Et nous nous sentons abandonnés, délaissés par Dieu. Nous avons aussi peut-être une mauvaise image de nous-mêmes. Si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons croire que Dieu nous aimerait, puisqu'à nos propres yeux, nous ne sommes justement pas aimables? Et chose, et je pense que le texte biblique complique des fois notre relation avec notre Dieu en tant que Père, parce que nous pouvons aussi avoir une très mauvaise image du Père. Il n'est pas facile de croire que notre Père céleste nous aime si notre Père terrestre ne nous a pas aimés comme il l'aurait dû. Quelles que soient les raisons qui nous font douter, notre Dieu nous dit une chose. Ne vous fiez pas à vos propres sentiments, ne vous fiez pas à votre propre perception des choses. Ne regardez pas à vous-même, mais regardez à moi, regardez à Dieu. C'est le verset 1. Voyez quel amour le Père vous a témoigné. Voyez, considérez, examinez ce que Dieu a fait et qui témoigne de son amour. Lorsque nous doutons de l'amour de Dieu, ce n'est pas à nos impressions qui sont trompeuses, ce n'est pas à notre morale qui connaît des hauts, mais qui connaît aussi des bas, que nous devons nous fier. Non, nous devons nous fier à des éléments objectifs, à des choses fiables, à des preuves de l'amour de Dieu. Et ces preuves, nous les avons. En Romains 5,8, il est écrit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notre Père céleste nous a prouvé son amour en envoyant, en donnant son Fils. Et il ne l'a pas fait parce que nous le méritions. Il ne l'a pas fait parce qu'il s'imaginait que nous étions des gens bien. Non, il l'a fait en sachant très bien qui nous étions, des pécheurs. Et Dieu n'a pas envoyé non plus son Fils par intérêt personnel. Dieu l'a envoyé pour nous. Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils dans notre intérêt personnel. Dieu nous a ainsi prouvé qu'il nous aime vraiment. Si dans notre cœur nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous pouvons avoir l'assurance d'être aimés. Nous pouvons avoir cette assurance parce que Dieu nous en a donné une preuve. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous sommes véritablement aimés par notre Père céleste. Cela signifie que je peux faire confiance que Dieu veille sur moi. Je peux le croire, je peux le suivre, je peux faire les choses à sa manière, je peux compter sur lui, car je sais qu'il prend soin de moi et qu'il m'aime vraiment. Et le fruit de cet amour, c'est de faire de nous un enfant de Dieu. Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour faire de nous un enfant de Dieu, Dieu a mis son amour en action. C'est parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il nous a aimés, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas l'inverse. Dieu nous a aimés avant, et c'est ce qui a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cet amour de Dieu pour nous n'est pas le fruit du hasard. Si je doute que Dieu m'aime tel que je suis, la deuxième chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est que je suis un enfant désiré, choisi, voulu par Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Quel péché nous guette si jamais nous ne croyons pas que Dieu nous aime tel que nous sommes? Si je ne crois pas que Dieu m'aime tel que je suis, alors c'est que je doute de son amour tout court. C'est que ce que Jésus a fait à la croix, je ne le considère pas comme étant suffisant, comme preuve que Dieu m'aime. Je risque alors de m'éloigner, de tomber du salut par grâce et de tomber dans le piège des œuvres à produire pour plaire à Dieu et pour chercher à enfin mériter cet amour, puisque je considère qu'il ne m'aime pas encore suffisamment. Il faut que j'en fasse toujours plus pour que Dieu m'aime. Et puis aussi, en tant qu'être humain, nous avons tous un besoin d'être aimés, un besoin de reconnaissance. Si je ne sens pas que Dieu m'aime, alors je vais chercher par tous les moyens à combler ce vide d'amour que je ressens. Et cette quête d'amour et d'affection et d'acceptation va probablement m'emmener loin de Dieu. Avons-nous parfois l'impression que Dieu ne nous aime pas tel que nous sommes? Pensons-nous que Dieu a eu une mauvaise surprise lorsqu'il a découvert qui nous sommes vraiment, ce qui se cache au fond de notre cœur? Même avant que nous naissions, Dieu savait déjà parfaitement ce que nous deviendrions. Psaume 139, 13 nous dit: tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Dieu savait, Dieu sait qui nous sommes vraiment. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît nos pensées. Dieu nous connaît même parfaitement parce que Dieu nous connaît même mieux que nous-mêmes. Avons-nous parfois le sentiment que si Dieu avait su à l'avance le chrétien que nous allions devenir, il n'aurait pas voulu de nous? C'est en connaissance de cause que Dieu nous a choisis. Éphésiens 1,4 nous dit: en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Nous avons donc été désirés, choisis, voulus par Dieu pour devenir ses enfants. Nous n'avons donc aucune crainte à avoir quant à l'amour de Dieu. Nous n'avons pas déçu Dieu parce que Dieu ne s'est jamais fait d'illusion sur nous. Parce que Dieu ne s'est jamais trompé sur nous. Dieu nous a vus tels que nous sommes et Dieu nous a aimés tels que nous sommes. J'avais une amie qui avait été perturbée dans son enfance parce que son grand frère et sa grande sœur lui avaient dit qu'en fait, elle avait été trouvée par hasard dans une poubelle. Et ça peut paraître curieux, mais elle les a crus. Pendant des années, elle a cru qu'elle n'était pas une enfant désirée, mais juste une enfant tolérée, une enfant poubelle. C'est seulement lorsqu'elle a grandi un peu qu'elle a osé en parler à ses parents, qui bien sûr l'ont détrompée. Nous devons savoir que nous sommes des enfants désirés et aimés par le Père. Et même si cela peut nous sembler trop beau pour être vrai, c'est une réalité. Nous sommes les enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Ce ne sont pas à nos sentiments que nous devons nous fier, mais à la réalité objective des actes par lesquels notre Père céleste nous a prouvé son amour. Notre propre perception des choses n'est pas toujours bonne pour mesurer l'amour de Dieu, pas plus que ne l'est l'opinion du monde, de la société dans laquelle nous vivons. Croyons-nous que les gens qui nous entourent, que les gens que nous côtoyons au travail, croyons-nous que la société est en mesure de nous aider à discerner si nous sommes aimés de Dieu? Croyons-nous que le monde est capable de savoir si nous sommes réellement un enfant de Dieu? Et si oui, selon quels critères? Le monde et la société dans laquelle nous vivons ne peut en aucun cas nous rassurer sur notre identité d'enfant de Dieu. Parfois, vous savez, on est dans la crainte, on cherche à être rassuré. La société dans laquelle nous vivons ne peut en aucun cas nous rassurer. Parce qu'en dehors de l'Église, personne ne vous dira « Rassurez-vous, vous êtes bien un enfant de Dieu !» Ou bien « Mais oui, soyez certains que vous êtes aimés de votre Père Céleste !» Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas les écrivains, ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas non plus les psychologues non chrétiens qui nous aideront à prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas de leur côté que viendra le réconfort, bien au contraire, ils ne feront qu'amplifier le doute qui est déjà en nous. Pourquoi ? Parce que pour eux, il est inconcevable que nous soyons réellement un enfant de Dieu. Et pourquoi ne peuvent-ils pas reconnaître que nous sommes bien des enfants de Dieu et que nous sommes aimés du Père? Parce qu'ils ne le connaissent pas personnellement. C'est au verset 21. « Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Comment le monde qui nous entoure pourrait-il reconnaître en nous un enfant de Dieu s'il ne connaît pas Dieu lui-même ? C'est impossible. » Ce n'est pas auprès du monde ou selon les valeurs du monde que nous pouvons chercher une confirmation de l'amour de Dieu pour nous, mais c'est en considérant les preuves que Dieu nous a données. Voyez par quel amour le Père nous a aimés. Et pourquoi le Père nous a témoigné de son amour? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si je redoute que Dieu se désintéresse de moi, il m'abandonne. La troisième chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est « Je n'ai pas à craindre que Dieu m'abandonne, car Dieu revendique sa paternité sur moi. » Quel péché me guette si je crois que Dieu peut m'abandonner ? Si je crois que Dieu peut m'abandonner, alors je vais probablement prendre les devants et m'éloigner de Dieu. Tout ça parce que je dois assurer mes arrières avant que Dieu ne me laisse, avant que Dieu ne trahisse son amour. C'est terrible de vivre dans la crainte, dans la peur de l'abandon. Croyons-nous que parfois Dieu a honte de nous et qu'il prend ses distances par rapport à nous? Est-ce que nous avons la crainte d'avoir déçu Dieu et que notre Père Céleste nous abandonne? Ah, tu n'es plus mon enfant. Dieu n'a pas honte de nous, au contraire. Dieu a même voulu que nous portions son nom. Ça me semble toujours extraordinaire. Je veux dire, si j'étais Dieu personnellement, je ne ferais pas en sorte que des tas de gens se réclament de mon nom. Parce que j'aurais l'impression que ça me fait une mauvaise pub. Mais Dieu a toujours fait en sorte que notre identité soit clairement rattachée à son nom. Devant le monde invisible, tout comme devant le monde, Dieu a voulu que nous soyons identifiés comme ses enfants. Notre Dieu revendique et assume pleinement sa paternité sur ses enfants. Mon Dieu est fidèle, je n'ai donc pas besoin d'assurer mes arrières et de veiller sur ma propre sécurité, car Dieu ne m'abandonnera jamais. Je suis pour toujours enfant de Dieu. Nous savoir aimer de Dieu, nous savoir aimer du Père est une bonne chose. Mais il reste encore un point qui peut nous faire douter de l'amour de notre Père Céleste. Un enfant a besoin de savoir que son Père croit en lui. Un enfant a besoin de savoir que son Père s'implique dans sa croissance et que son Père a pour objectif de lui permettre de réaliser tout le potentiel qui est en lui. Si je crains que Dieu n'ait pas de projet d'amour pour moi, alors la quatrième chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est « Dieu voit déjà en moi ma beauté et ma grandeur qui seront pleinement manifestées plus tard. » Verset 2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » À la fois, nous sommes déjà pleinement enfants de Dieu, mais en même temps, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Alors Jean joue ici sur l'opposition entre maintenant vous êtes enfants de Dieu, et puis un jour, pas encore, voilà, cela n'a pas encore été révélé. Maintenant, aux yeux du Père, nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu a un projet grandiose pour nous. Dieu veut nous restaurer de notre identité qui a été déformée par le péché. Dieu veut nous rétablir dans ce que nous sommes, des hommes et des femmes créés en son image. Le projet final de Dieu pour nous, c'est de nous rendre semblables à Christ. Nous serons semblables à lui. Lorsque Dieu aura terminé son œuvre en nous, alors ce que nous sommes devenus sera pleinement révélé ce jour-là. Aux yeux de tous, il sera manifeste que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes les enfants glorieux du Père Céleste, semblables à Christ, créés en l'image parfaite de Dieu. Mais pour l'instant, ce que nous sommes, ce que nous serons un jour, n'a pas encore été révélé clairement aux yeux de l'ensemble de la création. Mais Dieu, lui, le voit déjà. Dieu voit ce que nous deviendrons un jour, mais plus encore, parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous, notre Père nous voit déjà maintenant parfaits et sans défaut. Hébreux 10,14 nous dit « Par une offrande unique, il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il purifie du péché. » Et le temps utilisé en grec désigne que cette perfection est déjà effective. Voilà, elle est maintenant. Et aussi que c'est quelque chose qui est accompli une fois pour toutes. Elle durera toujours. Dans le regard de leur Père céleste, ces enfants sont dès à présent parfaits. N'est-ce pas formidable de savoir que notre Père céleste, qui nous regarde, nous considère comme parfaits? Parce que Dieu habite en nous, Dieu croit en notre potentiel. À notre conversion, nous avons reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, notre intelligence est renouvelée. Et aux yeux de Dieu, nous sommes déjà parfaits, parce que la nouvelle nature que nous avons reçue est parfaite. Et sa pleine manifestation, la pleine manifestation de cette nature parfaite, n'est qu'une question de temps. Le temps que l'Esprit de Dieu termine en nous son travail de nettoyage du péché qui avait souillé notre cœur. Et ce travail sera pleinement achevé et la révélation complète de notre identité se fera lors du retour de Jésus. Nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais dès à présent, et pour conclure, nous sommes véritablement aimés de notre Père céleste et nous savoir aimer est notre meilleure protection contre le péché. Verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Non. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le degré de confiance que nous avons dans l'amour de Dieu détermine notre capacité à nous détourner du péché. L'origine du péché est toujours la conséquence du doute ou du refus de croire en la bonté de Dieu. Comment pourrais-je croire que ce que Dieu me demande est bon pour moi si je doute de son amour? Les trois versets que nous venons de voir disent cela. Celui ou celle qui est convaincu d'être aimé de son Père céleste, celui ou celle dont l'espérance est ferme, se purifie chasse de son cœur le désir de pécher. Jacques nous dit cela avec d'autres mots. Lorsque notre cœur est partagé, purifions notre cœur. Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Lorsque notre cœur est partagé, que nous croyons un peu à la bonté de Dieu, mais pas complètement, nous avons du mal à croire que tout ce que Dieu nous demande est bon pour nous. Les circonstances de notre vie, notre propre vécu, notre propre culture peuvent nous amener à douter de l'amour de Dieu pour nous. Et le doute risque de nous conduire au péché et donc de nous éloigner encore plus de Dieu. Mais lorsque nous doutons, voilà ce que Dieu voudrait nous dire. Ne doute pas de mon amour. Considère les œuvres que j'ai accomplies en ta faveur. Tu es véritablement aimé, aimé par moi, ton Père céleste. Tu es un enfant désiré. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai voulu. C'est moi qui t'ai choisi. Tu es mon enfant et je suis fier de toi. Je ne vois en toi aucun défaut. Je te vois déjà parfait, tel que tu seras dans l'éternité. Aie confiance en moi. Ne doute plus de mon amour. Tiens bon face au péché. J'ai un projet grandiose pour toi. Souviens-toi que je t'aime.